Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Wesh le sang. Bonjour et bienvenue, hein. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Alors que pendant ce temps-là, au Salon du Bourget, nous avons le Boeing 737 Max qui est en train de faire sa démo en vol. Très important, priorité au direct, hein. Juste avant, vous avez raté, il y avait l'Eurofighter Typhoon, c'était trop bien. C'est ici qu'on fête la musique. Ah oui, c'est la fête de la musique! Bonne fête la musique! Bonne fête à toi. C'est en direct? Ouais, c'est en direct. C'est les démos en vol. Petit stream Kazoo, non, c'est mort. Tu devais y être au Bourget. Je vais y aller demain matin. Demain matin, je vais au salon du Bourget. C'est diffusé où? C'est sur le site internet du salon. C'est sur YouTube Live aussi, je crois. Oh, il est beau le navion. Waouh! Waouh! Et après, t'arrives sur le plateau de Baxit en hélico. Exactement. Il est beau le navion. Bon, si vous voulez le son, c'est un son d'avion, quoi. Stylé le prochain Flight Simulator. T'as vu, les graphismes sont pas mal, hein. Bravo à Zobo, hein. Vachement bien développé, hein. Un bébé ours blanc au moins. Ah là là. Bon, tais-toi. Je fête pas la musique, je prépare ma valise pour aller voir la superbe émission Backseat et passer mes oraux accessoirement. Ah, tu viens à Backseat demain? Ça fait plaisir. Il y a eu un trailer en plus du prochain Flight Simulator. Oui, on l'avait regardé. Est-ce que vous allez bien en ce mercredi de fête de la musique? Vous allez fêter la musique ce soir? Qui va faire la fête ce soir? Je sais pas si je fête la musique moi ce soir. Je sais pas. Non, non, oui. Oui, s'il n'y a pas d'orage. Journée entretien d'embauche. Courage à toi. Non, je bosse. Viteuf, non. Non, je suis pas en France. Je vais retourner à la cabane, d'accord. Trop chaud pour sortir. Je vais babysitter. Non, astreinte. Bon, bah courage, hein. Les gens qui bossent, qui peuvent pas aller fêter la musique. Je suis veilleur de nuit dans un hôtel de campagne, ça va être fou. C'est faux. La flemme, la musique. Oh. Oui, je bosse, je suis musicien. Ah, bon, bah très bien. Non, partiel demain. Courage. J'aime bien la musique, mais j'aime pas la fête. Oh, oh, vous êtes compliqué, hein. Je vous proposais qu'on fasse une petite FAQ politique cet après-midi. Voilà, FAQ politique, vous commencez à être habitué, hein. Si vous êtes sage, après, on en fait des best-of sur YouTube. Ouh, bravo. Bravo à ceux qui viennent de passer le CN. Le CN, c'est quoi? C'est l'épreuve commune nationale? Première année de fac de médecine, c'est ça? Je sais pas si vous êtes sage, franchement. Merci Lucurne, Lucurne, pardon. Merci Docobri aussi pour ton resub. Merci Maynard13 pour ton abonnement. Pour ton Prime. C'est l'examen classant national. Ah, c'est sixième année. Ah oui, c'est l'examen classant. Bah d'accord. Eh bah bravo les docteurs. C'est le concours pour passer interne. D'accord, ok. Eh bah bon courage.
Mmh.
Quels sont les risques concrets que pourrait impliquer un mandat RN pour les institutions démocratiques? Eh ben, le recul des droits. Le recul des droits et libertés. Je vais aller applaudir à ma fenêtre pour les docteurs, comme Antoine Daniel. Oui. Après, ils sont sous-payés, tu sais. Oui, je sais, je sais, je sais. Quel est l'impact réel de la dissolution des soulèvements de la Terre? Ça a été prononcé ce matin en Conseil des ministres, la dissolution des soulèvements de la Terre. Impact réel, ça va être dur à mesurer parce que des soulèvements de militants écolos, va y en avoir encore, soulèvement de la Terre ou pas. Impact réel, pour l'instant, impact politique, le gouvernement fait montre d'autorité et les écolos de leur côté dénoncent le caractère attentatoire aux libertés de cette décision. Donc pour l'instant, c'est un peu match nul d'un point de vue purement politique. Qu'est-ce qu'implique l'interdiction, je veux dire? L'interdiction, ça implique l'interdiction d'utiliser la structure juridique, s'il y en a une, le nom de la structure dissoute pour l'organisation de toute forme d'activité. Et pour les membres d'une organisation dissoute, ça implique l'interdiction de se réunir, de s'organiser en vue de mener des actions, quelles qu'elles soient. C'est ça, une dissolution d'organisation. Comment est choisie la liste des députés qui posent leurs questions à une session de QAG? Ce sont les groupes parlementaires qui s'organisent, qui se coordonnent entre eux lors des réunions de groupe le mardi matin pour décider qui va poser les questions au nom du groupe. Chaque groupe a un quota de questions à poser en fonction de sa taille et chaque groupe est libre de s'organiser comme il veut pour décider qui va poser les questions. C'est appliqué dès aujourd'hui car il y a 90 rassemblements dans toute la France ce soir. Bah c'est pour ça que je te disais que ça paraît difficile, ça paraît compliqué d'avoir des effets concrets sur la dissolution des soulèvements de la Terre, parce que les soulèvements de la Terre ne sont qu'un nom d'organisation parmi beaucoup d'autres qui organisent des rassemblements écolos, quoi. Est-ce qu'ils sont obligés d'en poser? Non, les groupes n'ont pas l'obligation de poser des questions au gouvernement, mais il serait bête de ne pas saisir cette opportunité. Est-ce que les questions sont connues à l'avance? Par le gouvernement? Non, pas systématiquement. Il y a des députés qui donnent leurs questions avant au gouvernement parce qu'ils veulent avoir une réponse précise ou parce qu'ils veulent aider le gouvernement. Il y en a d'autres qui ne donnent pas leurs questions parce qu'ils ne veulent pas aider le gouvernement, notamment les députés de l'opposition. Un peu comme si on voulait dissoudre les gilets jaunes. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Mais bon, le mouvement écologiste ne se résume pas au mouvement de la Terre, mais au soulèvement de la Terre, mais oui. Est-ce que le gouvernement s'est déjà remis en question suite à une question d'un autre parti? C'est-à-dire? Est-ce que cette dissolution n'est pas un cas d'école d'utilisation détournement de lois antiterroristes vers un cas banal? Je suis pas sûr que ce soit les lois antiterroristes, les dissolutions d'associations par le Conseil des ministres, ça existait avant les lois antiterroristes. Mais ça participe du climat de tour de vis sécuritaire dans un contexte de lutte contre le terrorisme, oui. Bonjour Jean, tu m'as l'air fatigué, est-ce que tu vas bien? Ah oui, ça va, j'ai chaud, mais ça va. Pourquoi tu mets pas la clim? Parce que j'en ai pas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est que le lambertisme, s'il te plaît? J'ai du mal à situer par rapport aux autres mouvements dans la gauche. C'est compliqué, le lambertisme, ça n'existe plus déjà. C'était un mouvement trotskiste, caractérisé par une stratégie d'entrisme dans les autres structures de la gauche, notamment le Parti socialiste. Mais c'était un mouvement trotskiste, hein, c'est du communisme révolutionnaire, somme toute assez classique, qui faisait de l'entrisme, donc qui plaçait leurs différents responsables dans les partis politiques, notamment au Parti communiste et au Parti socialiste. Si j'ai bien suivi, la notion d'association de fait vient de la loi antiséparatiste. Non, ça existait déjà, l'association de fait. Juridiquement, ça existait déjà. C'est une notion qui existait déjà. Groupement de faits, peut-être, mais alors du coup, je vois pas la. Oui, c'est une association de malfaiteurs, quoi. Enfin. C'est quoi trotskiste? Le trotskisme est un courant. Est un courant de pensée, un courant politique, communiste, révolutionnaire, qui dénonce, enfin qui au cours du XXe siècle s'est construit autour de la figure de Léon Trotsky, qui a été écarté du pouvoir par Staline, et assassiné d'ailleurs par un homme de Staline. Et les trotskistes se revendiquent de la pensée de Léon Trotsky, notamment dans la dénonciation du communisme soviétique. Grosso merdo, tu as deux types de communistes. Dans les pays démocratiques qui en comptent, tu as ceux qui sont fidèles à la ligne de Moscou lorsque l'URSS existait encore, et tu as les trotskistes qui sont communistes, révolutionnaires, mais qui sont critiques du stalinisme, qui sont beaucoup plus internationalistes, plus autogestionnaires, qui sont contre la dérive autoritaire et autocratique du communisme soviétique. C'est ça qu'on appelle le trotskisme. C'est quoi qui a été reproché à la loi travail de 2016? La loi travail de 2016, c'est une loi qui a fait l'objet d'une contestation par un mouvement de manifestation. C'est une loi qui était dénoncée par ses opposants parce qu'elle durcissait les conditions du marché du travail. Elle assouplissait les licenciements. Voilà, elle faisait monter la pression sur les salariés et les chômeurs, ce qui était dénoncé par une partie du camp social, ouais. Comment ça se passe une dissolution? Qui décide sur quel motif le recours juridique sont possibles? Une dissolution, c'est décidé en Conseil des ministres, par le gouvernement, donc c'est une décision réglementaire. Ça doit être justifié par des éléments ayant attrait à la sécurité. Et un recours est tout à fait possible devant la juridiction administrative. Les décisions du gouvernement sont toujours contestables devant le Conseil d'État, qui peut les casser. Si d'aventure elle ne respecte pas la loi. Est-ce qu'on peut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme? Oui, si on a épuisé les recours internes, donc si le Conseil d'État n'a pas donné satisfaction aux plaignants, ils peuvent se diriger vers la juridiction européenne. Ouais, je crois, ouais. Y a-t-il un message politique du gouvernement derrière la dissolution des soulèvements de la Terre? Une décision gouvernementale a toujours un message politique, par définition. Le gouvernement, oui, a un message politique. Qui est exprimé par la voix du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Première ministre Elisabeth Borne, qui condamne les violences qui ont émaillé les manifestations et les mobilisations contre la méga-bassine de Sainte-Soline contre le Lyon-Turin. Ouais. C'est quoi exactement une dissolution? Il y a des arrestations. Non. Non, il n'y a pas d'arrestation. Une dissolution, c'est le démantèlement juridique d'une organisation juridique si elle existe. Une association de loi 1901, par exemple. Ou une entreprise, ou je sais pas, ce que tu veux, une fédération, une fondation. L'interdiction pour les membres de continuer l'activité. Et l'interdiction pour les membres de reconstituer la structure sous un autre nom ailleurs. Tout cela étant l'objet de délits qui peuvent être poursuivis devant les tribunaux. En gros, il n'y a plus d'existence légale, donc pas de financement. Oh, c'est même plus que ça, hein. C'est même plus que pas de financement, hein. C'est interdiction de continuer l'activité, même sans financement. Mais c'est difficile lorsque on parle de structures qui ont des organisations très horizontales, sans adhésion formelle, sans structure de prise de décision et de direction. Très difficile de dissoudre un mouvement. Ouais, je dirais ça. Merci LTR Prod pour ton Prime, merci beaucoup. Moi, je pense honnêtement que ça n'aura pas beaucoup d'impact sur l'activité des militants écologistes radicaux. Non, effectivement, mais d'ailleurs, les dissolutions ont rarement un impact phénoménal. Pour l'instant, des dissolutions, on en a vu. Donc là, c'est pour les soulèvements de la Terre, donc c'est des mouvements écolos. On en a vu sur des mouvements d'extrême droite, Génération Identitaire, par exemple, qui a été dissous. Bon, bah, ça n'empêche pas l'extrême droite de s'organiser et de faire des trucs sur des organisations à qui était reprochée une radicalisation islamiste. Baraka City, tout ça, on en avait parlé aussi. Pareil, j'ai pas l'impression que ça les ait fait beaucoup reculer. Merci Batmad, merci Moumeu, Moumoumeu. Comment est choisi le ministère de rattachement des secrétariats d'État? Par exemple, pourquoi la transition numérique et les télécommunications sont-elles rattachées au ministère de l'économie plutôt qu'au ministère de l'autonomie ou celui de la transformation? Par cohérence d'action politique et par cohérence de structure administrative, en général, c'est comme ça que tu fais des rattachements. En l'occurrence, il n'y a pas de transition numérique. Il y a un ministère du numérique, je crois. Y a une délégation interministérielle au numérique qui est sous l'égide du coup de la Direction générale aux entreprises, je suppose. Ah si, transition numérique et télécommunication, pardon, autant pour moi. Transition numérique. Un peu ce que ça veut dire. Et en l'occurrence, pourquoi c'est pas rattaché? Pourquoi est-ce qu'on rattache pas la transition numérique au ministère de l'autonomie? Parce que l'autonomie, ça veut dire les personnes âgées. C'est ça qu'on appelle l'autonomie, hein, c'est la prise en compte du cinquième risque de l'assurance de la sécurité sociale. Et le ministère de la transformation, Et bah c'est la transformation de l'action publique. D'ailleurs, on reçoit Stanislas Guérini demain, le ministre chargé de ça, sur le plateau de Backseat. Ce sera notre invité politique. La transformation, ça a un rapport avec les services publics. Y a-t-il des recours possibles face aux perquisitions et mises en garde à vue d'activistes des soulèvements de la Terre en tant que terroristes? Sans avocat, garde à vue de 96 heures, etc. Oui, bien sûr, bah ils ont. Si d'aventure ils sont mis en examen, ils auront la possibilité de saisir le juge, de contester les actes de l'enquête et de faire valoir leurs droits. Ça veut dire quoi extrême droite et extrême gauche en politique? Bah, la notion d'extrême, déjà droite et gauche c'est une convention, et la notion d'extrême ça renvoie à une radicalité des positions et ou des méthodes. Les chercheurs parlent peu d'ailleurs d'extrême droite ou extrême gauche, ils utilisent davantage la droite radicale et la gauche radicale. Extrême gauche et extrême droite, ce sont des mots qu'on utilise davantage dans le débat public ou dans les médias, pour désigner des camps, des écoles de pensée et des organisations politiques. Merci 6064. Quelle différence entre extrême, ultra et radical? Mais en fait, le problème, c'est qu'encore une fois, ce sont des conventions, donc ça dépend qui les utilise pour dire quoi. Il n'y a pas de définition objective absolue. Par convention, la radicalité, c'est ce qui est le plus objectivable, donc c'est ce qui est utilisé par les chercheurs lorsqu'ils parlent des camps politiques pour désigner l'absolutisme des idéologies, des positions, du refus du compromis, ou par les méthodes qui sont utilisées. Et la notion d'ultra par rapport à extrême, c'est peut-être pour désigner le recours à la violence physique. Là où des organisations d'extrême vont pouvoir présenter des candidats à des élections et participer au débat public, des organisations ultra vont avoir recours à la violence comme méthode d'expression pour parvenir à leur fin, faire des assassinats, des incendies. Voilà. Est-ce que c'est un raccourci d'associer extrême droite et racisme? L'une des caractéristiques de l'extrême droite en France et en Europe depuis la fin du 19e siècle, c'est sa xénophobie et sa défense des thèses racistes. C'est pas un raccourci. C'est une caractéristique. Une spécificité. La politique populiste, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est si dangereux que le décrit RE? RE, c'est qui, Renaissance? Le populisme, c'est dur à définir le populisme parce que là aussi, ça dépend par qui c'est prononcé. Est-ce que c'est prononcé dans un but de dénonciation ou comme une revendication? Le populisme, c'est une méthode, une posture dans le débat public qui consiste à affirmer l'opposition frontale nécessaire entre un E élitiste et néfaste et un nous populaire. Ce qui détermine le populisme, c'est le E contre nous. E étant une minorité agissante, une minorité dirigeante, économiquement, culturellement, politiquement, tout ce que tu veux. Et le nous étant une extraction du peuple vu comme un truc assez homogène dans ses intérêts, ses aspirations, etc. Le populisme peut aussi être vu comme une stratégie de conflictualisation. Tu vas retrouver du populisme dans des mouvements des années 2010, comme le mouvement des indignés, Occupy Wall Street, mais aussi de l'autre côté du spectre, à l'extrême droite, dans le trumpisme. En fait, les gens qui dénoncent le populisme, ils voient une démagogie. La démagogie étant un artifice argumentatif consistant à flatter l'auditoire de manière exagérée, lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Et le populisme peut aussi être revendiqué comme une affirmation du peuple. C'est ce qu'a fait notamment Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise après le Front de gauche. Il faut l'adjectiver ce terme. Lequel? Tu peux nous dire les critères juridiques pour qualifier une organisation de terroriste? Non, c'est un peu spécifique comme question, ça c'est du droit pénal. Qu'est-ce qui relève du terrorisme sur les méthodes d'utilisation de la violence dans des meurtres de masse, dans le but de provoquer la peur? La violence systématique à des fins politiques, oui. Oui, la violence systématique à des fins politiques, oui. Très bonne définition. Si un jour le vote blanc est pris en compte pour la présidentielle, à ton avis, comment ça pourrait marcher? J'en sais rien, je sais pas du tout. Il n'y a pas que les meurtres de masse, non, parfois des attaques individuelles ont été qualifiées de terroristes, je crois. Oui, bien sûr, oui, c'est aussi des assassinats ciblés. C'est pas que des attentats à la bombe ou à la fusillade, etc. Ça peut être des assassinats ciblés sur des personnalités, sur des personnes. Ça aussi, c'est du terrorisme, oui, bien sûr. Pourquoi le vote blanc n'est pas pris en compte? Parce qu'il n'exprime pas le choix d'un candidat. Aujourd'hui, les opérations de scrutin lors des votes visent à départager des candidats pour occuper un poste ou une série de postes. Est-ce que tu penses qu'il y aura un déclic qui fera de l'écologie un must-have dans un programme politique? Alors un déclic, je sais pas, mais ça fait quand même quelques années maintenant que la question du climat est prise en compte par les candidats aux élections, en tout cas présidentielles, avec plus ou moins d'intensité. Hein, je suis pas là pour le juger, etc. Mais la question de la prise en compte de l'environnement progresse de plus en plus dans les propositions des candidats politiques et dans le débat public depuis le début des années 2000. Ouais. Le danger de la propriété environnementale est justement qu'elle soit reprise droite-extrême droite avec un gros greenwashing. C'est-à-dire que la notion de greenwashing, c'est une notion qui renvoie aux attentes que tu peux avoir, que certains électeurs peuvent avoir vis-à-vis d'une proposition. Suis sûr que Marine Le Pen est absolument convaincue que son programme est écolo. Ce qui ne satisfait très probablement pas, des militants écologistes. Qu'est-ce que tu retires de ce genre d'exercice avec le chat? C'est pas trop difficile le côté mitraillette de questions, sans pouvoir plus développer que cela, et en même temps, je crois que c'est pas la première fois que je rencontre cet exercice, donc bravo l'artiste. Mais non, mais enfin, moi je suis content de répondre à vos questions. Je suis content de répondre à vos questions. Si je peux vous aider à comprendre des trucs qui sont pas clairs pour vous, avec grand plaisir, hein. T'inquiète. Quelle politique étrangère t'intéresse le plus? Je comprends pas la question. Politique étrangère, ça veut dire c'est quoi une politique étrangère pour toi? Une élection présidentielle à un tour pourrait aider contre l'abstention, à ton avis, pour éviter de voter contre le moins pire au deuxième tour. Mais ça veut dire quoi? Tu l'imagines comment ton élection présidentielle à un seul tour? C'est le winner takes it all? Celui arrivé en tête du premier tour est président de la République, même s'il n'a que 20% des voix? La politique en général dans un pays étranger. Je sais pas, j'ai pas fait de hiérarchie dans ma tête entre mon pays préféré dans lequel je préfère suivre la politique. Je sais pas, j'ai pas de préféré. Désolé. Est-ce que des membres de ta famille sont engagés en politique? Non. Non. Il y a beaucoup de recherches de fait sur les modes de scrutin. Il y a d'autres choses que les scrutins uninominaux. Oui, je sais. Enfin, pour une élection pour un poste, c'est rare qu'il y ait d'autres types de scrutins que les scrutins uninominaux. Les scrutins de liste, c'est pour élire des conseils départementaux, régionaux. Alors départementaux, non, en plus, c'est uninominal. Municipaux. Comment on s'engage en politique? En s'exprimant, en exprimant ses opinions, soit dans un cadre individuel, pour ça il y a un site internet qui s'appelle twitter.com, soit dans un cadre collectif, et pour ça il y a tout un tas d'organisations associatives, politiques, syndicales. Quelle a été la meilleure république selon toi? Pareil, il n'y a pas de hiérarchie des républiques, ça ne marche pas comme ça. L'histoire des régimes politiques se fait en fonction des contextes culturels et politiques et économiques et sociaux des époques. Il y a facilement mieux que la nôtre actuellement quand même. Selon ton point de vue, peut-être. Selon ton point de vue, peut-être, mais un gaulliste historique, il regarde notre République aujourd'hui en se disant qu'au contraire, elle fonctionne plutôt très bien. C'est ce qu'expliquait un politiste là que j'ai lu rapidement en diagonale dans Le Monde. C'est tout le paradoxe de la Ve République, c'est que le gouvernement d'Elisabeth Borne n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et pourtant il n'y a pas de blocage. L'Assemblée nationale ne bloque pas. C'était le principal reproche qui était fait par les gaullistes à la 4ème République, c'est que les instabilités politiques au Parlement bloquaient l'action. Là, l'action n'est pas bloquée. Elisabeth Borne est en train d'inventer le fait minoritaire. Elle est en train de faire la démonstration que la Ve République permet de gouverner le pays, faute de majorité, mais en l'absence de censure. C'est ce que Richard Ferrand, dans son interview au Figaro, appelle l'onction de censure. J'aime beaucoup le mot. J'ai lu ça, je me suis fait, ah ouais, tiens, elle est pas mal celle-là. L'onction de censure. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais elle a remporté 17 fois un vote sur une motion de censure. Donc, on peut gouverner le pays à défaut de majorité en n'étant pas censuré. C'est ce qu'est en train de défendre Elisabeth Borne et de démontrer Elisabeth Borne. Ça, un gaulliste typique des années 50, il te dirait que c'est le signe d'une bonne démocratie. C'est peut-être pas votre point de vue, ni le mien, mais c'est la preuve que c'est une question de point de vue. Mais que dirait De Gaulle en vrai? Bah rien, il est mort. Il a une vision bien réduite de la démocratie alors. Ah bah De Gaulle, oui, ça oui. Oui, ça fait 70 ans que la Ve République est contestée, hein. Pour ces raisons, précisément. On parle d'un général quand même, oui. Oui, Général de Gaulle n'était pas un gauchiste. C'était pas non plus un immense démocrate. Il était plus obsédé par l'efficacité du pouvoir que par sa légitimité démocratique. Encore que, il avait une pratique référendaire que les gaullistes jugent bien plus démocratique qu'autre chose. Au contraire, il était très concerné par la légitimité. Quand ça l'arrangeait, oui. De Gaulle a quand même fait une alliance avec les communistes, il y a pire comme facho. Tu fais référence au mouvement de la résistance? Avait-il vraiment le choix? Ça veut dire quoi en termes simples d'être gaulliste? J'ai jamais trop compris qui ne l'est, ne l'est pas. Parce que la figure du général de Gaulle est une figure tutélaire tellement importante que beaucoup de personnes s'en réclament, notamment à droite et à l'extrême droite. Parce qu'il y a aussi une droite non gaulliste, hein, historiquement, c'était l'UDF, les giscardiens. Le gaullisme, ça renvoie à une pratique du pouvoir. Un positionnement géostratégique international qui glorifie l'indépendance, l'autonomie de la France dans le monde. Une politique démocrate chrétienne, conservatrice, pas ultralibérale, pas libérale, fortement interventionniste, décoloniale. Voilà. Planificatrice, ouais. Décolonial, bah oui, décolonial. Les accords d'Alger, les accords d'Évian, pardon. Décolonial, de Gaulle, il a pas fait la guerre d'Algérie. Vous êtes nouveau? Il a mis fin à la guerre d'Algérie, justement, en concédant l'indépendance à l'Algérie. Même qu'il a failli se faire assassiner pour ça. Ah ouais, non, c'est... Ah ouais, non, non. Ah ouais, non, ça, si vous n'avez pas cet épisode-là, vous comprenez pas grand-chose à l'histoire des droites et de l'extrême droite, justement. Ah oui, non, non. Les anti-gaullistes de droite se sont structurés autour de la question coloniale contre De Gaulle, parce que De Gaulle a accepté l'état de fait géopolitique de l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle, qui était la décolonisation. De Gaulle a reconnu que l'avenir n'était pas à la colonisation. C'était fini. Dien Bien Phu, Alger, tout ça, on arrête. La France n'est plus un empire. Et ça, c'est un truc que l'extrême droite n'a jamais pardonné à De Gaulle, qui voulait que l'Algérie reste française, machin, etc. Faut écouter les podcasts de Philippe Collin. Ah bah ouais, là, oui. Et du coup, comment quelqu'un d'extrême droite comme Zemmour peut se réclamer gaulliste? C'est une excellente question que tu poses. Ouais. Peut-on réhabiliter Pétain et se réclamer du gaullisme? C'est compliqué quand même, hein. Mais il y en a qui arrivent à le faire. Cette cascade est réalisée par des professionnels, n'essayez pas de la faire chez vous. Le Pen aussi, hein. Marine Le Pen qui va déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du général de Gaulle à Colombelles-les-Deux-Églises. Elle est la chef d'un parti qui a été créé par des nostalgiques de l'Algérie française et par des terroristes de l'OAS. Enfin, faut... Là aussi, il faut avoir beaucoup de sens de l'humour, quoi. Bon. C'est dans le but de séduire les gens de droite qui ne se sentent pas extrêmes. Exactement. Imagine-t-on le général de Gaulle collaborer avec les nazis? De Gaulle avait été contre les sanctions contre Pétain, si je me souviens bien. Il a commué la peine de Philippe Pétain en réclusion criminelle à perpétuité. Philippe Pétain a été condamné à mort par le tribunal à la Libération. Et le général de Gaulle a essayé de commuer sa peine pour trois raisons à cause de son âge, parce qu'il était très âgé, Philippe Pétain, parce que c'était un héros de la Première Guerre mondiale et que le général de Gaulle était un militaire et qu'il ne voulait pas mettre un point final à la carrière de Philippe Pétain uniquement à cause de la collaboration. Et par ailleurs, parce que la France était en pleine reconstruction et que de Gaulle ne voulait pas. Enfin, il voulait rassembler. Et il voulait pas en faire des caisses. Il voulait un peu qu'on passe à la suite, quoi. Il est resté en prison, putain, au final, je sais même pas. Oui, sur l'île Dieu. Philippe Pétain a terminé ses jours dans un fort militaire, emprisonné dans un fort militaire sur l'île Dieu, où repose sa dépouille aujourd'hui. Il voulait changer de séquence. Ouais. C'est malin de ne pas l'avoir exécuté, il aurait pu être transformé en martyr. Ouais. Oui, je sais pas. Je sais pas. Que signifie le mot démocrature que l'on voit partout depuis quelques mois? De ce que j'en comprends, c'est un néologisme qui sert à dénoncer un régime politique considéré comme dictatorial, mais qui prend les traits d'une démocratie, donc une fausse démocratie. Je suppose que c'est ça. Laval a été exécuté, il n'a pas été érigé en martyr. Oui, c'est Pierre Laval, lui, il a été fusillé, oui. Après avoir tenté de se suicider lâchement. Ouais. C'est l'inverse du coup. Oui, c'est une dictature qui se déguise en démocratie. Qui est Pierre Laval? Pierre Laval était le premier ministre de la collaboration de 1940. De à 1945. Et qui était le collaborateur zélé des nazis. Qui a joyeusement organisé la déportation des enfants, le massacre des juifs, tout ça. Pierre Laval, un vrai nazi convaincu. Plus compliqué que ça. Un opportuniste, ça clairement. Ouais. C'est quoi l'indignité nationale? L'indignité nationale, je crois que c'est une peine symbolique qui consiste à retirer à une personne toutes ses décorations et autres grades militaires honorifiques. Donc Philippe Pétain a été condamné à l'indignité nationale, donc il a perdu absolument tout, tous les grades et décorations et honneurs qui lui avaient été remis au cours de sa carrière. Son bâton de maréchal, Légion d'honneur, titres honorifiques divers et variés. Perte de tous les droits civiques et honneurs militaires, ouais. Pourtant, on parle encore du maréchal. Bah, c'est le problème, c'est que Philippe Pétain a repris le pouvoir en 40 parce qu'il était le maréchal. C'est ça le problème, c'est qu'il était connu auprès des Français comme le maréchal. C'est comme le général de Gaulle, tu vois, c'est le général de Gaulle. Bon, le mec s'appelait Charles de Gaulle en réalité. Mais c'est le général de Gaulle, quoi. Donc tu vois, c'est le problème de Philippe Pétain, quoi. C'est que oui, il s'appelle Philippe Pétain, vu qu'il a plus le grade de. Il a plus les honneurs militaires, etc. Il a plus son bâton de maréchal, mais il était tellement connu des Français comme le maréchal. C'était même parce qu'il était maréchal qu'il a été rappelé au pouvoir. Son prénom, c'est pas général. Non. Je fais à la France le don de ma personne. Ah ouais. Bah, la France, elle a pris sa personne et elle l'a envoyée à l'île-Dieu pour finir ses jours, dans l'indignité la plus totale. Je fais à l'Allemagne le don des Juifs de France. Voilà. Ça aussi. La peine est assez complète. Exclusion du droit de vote, inéligibilité, exclusion des fonctions publiques ou semi-publiques, perte du rang dans les forces armées et du droit de porter les décorations, exclusion des fonctions de direction dans les entreprises, les banques, la presse, la radio, de toute fonction dans les syndicats, les organisations professionnelles, des professions juridiques, de l'enseignement, du journalisme, de l'Institut de France, interdiction de garder et de porter des armes. Oui, bref. L'indignité, quoi. Point Godwin atteint. Ah bah on est en train de parler de Philippe Pétain en même temps, excuse-moi si je fais référence à la Seconde Guerre mondiale. Navré, hein. Pétain a quand même défendu la France de l'invasion en 14-18, mais l'a revendue aux nazis en 40. Perso, ça m'échappe, je comprends pas. Écoute l'excellente série de podcasts de Philippe Collin qui s'appelle Le fantôme de Philippe Pétain. Et qui te raconte l'histoire de Philippe Pétain avec des historiens, des biographes, etc. Ça t'aide à comprendre. Ça veut dire quoi être de gauche aujourd'hui? Ben, faut demander aux gens qui se réclament de la gauche ce que ça veut dire pour eux. Comment ça s'appelle le podcast? Le fantôme de Philippe Pétain. C'est le titre de la série de podcasts. Merci Exode qui vous a mis le podcast dans le chat. T'es trop énervant à faire le mec neutre comme ça me rend fou. Inspire par le nez, expire par la bouche, ça va bien se passer. C'est pas Henriot le milicien qui a été fusillé aussi? Si, peut-être. Bon, il y en a eu un paquet, hein. J'ai le même fauteuil jaune que toi. Celui-là, là? C'est pas le mien, c'est le fauteuil de mon chat. Le chat que tu vois pas. Ben non, je la vois pas, mais elle me laisse des petits poils noirs sur le fauteuil jaune. C'est sa manière à elle de me dire bonjour. En même temps, tout à l'heure, elle est venue me voir le petit chat. J'étais allongé dans mon lit tranquille, elle a passé une tête comme ça. Et après, elle est repartie. Elle va bien. Elle m'a l'air d'avoir chaud en ce moment. Elle m'a l'air d'avoir chaud, elle bouge pas beaucoup, elle reste dans la cuisine sous le meuble de. Sous le meuble de la cuisine, sous le meuble de l'évier. Peut-on dire que c'est une petite feignasse alors? Bah, moi j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a chaud, parce qu'avant elle essayait de sortir quand même de temps en temps. Tu peux la caresser avec un gambouillet. Ah non, non, elle a très peur de moi, donc je l'ai jamais touchée. C'est un chat que je n'ai jamais touché. Ça fait 4 mois, 4 mois qu'elle est à la maison. Il n'y a jamais eu de contact physique. Même pas un petit boop. Pétain, héros de la première guerre, ça me hérisse. Il avait presque 60 ans au début de la guerre et traditionnellement, les généraux ne traînent pas trop dans les tranchées à bouffer de la merde et se faire déchiqueter. Mais Pétain fait bel et bien partie des généraux qui ont remporté la bataille de Verdun. C'est comme quand on dit Napoléon a conquis l'Italie. Oui, c'est pas tout seul avec son épée, hein. C'est avec son armée. Le projet de la fête de Lumassie avance bien. Ouais, j'ai une réunion la semaine prochaine à ce sujet. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Tout seul avec son épée comme le prince Sali, exactement. Merci Jules pour ton resub, merci beaucoup. Ça n'enlève rien à l'honneur des soldats qui ont combattu. Ça n'enlève absolument rien. Cette discussion m'a donné envie d'écouter le podcast de Colin. Merci Jean, à bientôt. Mais de rien! Mais de rien! Ça va le faire pour le dernier backseat de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le dernier backseat de la saison, oui. C'est le dernier backseat de la saison. N'hésitez pas à venir d'ailleurs demain jeudi, c'est l'avant-dernier backseat du coup. Demain jeudi, je serai avec Léa, Usul et Sacha comme chroniqueurs et chroniqueuses sur le plateau. Et notre invité politique demain, ce sera Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de l'Action publique. Niveau finance, c'est bon. Il manque encore 26 000 euros, 26 353 euros pour finir de boucler le budget de la saison et finir de payer les salaires. Et dans 26 000 euros, on sera à l'équilibre. N'hésitez pas à participer au financement, évidemment. Donc la saison. Hein? La saison de demain? Non. Le dernier épisode, on n'a pas encore les ressources financières pour le financer. Donc dans 26 000 euros, tu commences à te rémunérer. Oui. Sur Backseat. Tu préfères plus d'argent maintenant ou un don régulier? Un don régulier, ça a le mérite d'avoir de la prévisibilité, notamment pour la saison 3. Ça, c'est pratique. Un don maintenant, ça a le mérite de nous permettre de boucler la saison. Donc, c'est aussi pratique. Un mot sur la polémique Ferrand avec la réforme du sixième article de la Constitution. Non, mais j'en ai déjà parlé avant-hier. Richard Ferrand a donné une interview au Figaro dans laquelle il a fait une réponse ambiguë à la question de l'impossibilité pour Macron de se représenter en 2027. Il assume pas. Enfin, ça dépend comment tu lis l'interview. Mais j'ai pas l'impression que Richard Ferrand ait proposé de changer la Constitution pour permettre à Macron de faire un troisième mandat. J'ai l'impression que là, les gens sont allés un peu vite en conclusion en disant ça. En gros, Richard Ferrand, il a dit, c'est dommage que les Français puissent pas se prononcer sur un éventuel troisième mandat de Macron. C'est la règle de la Constitution, mais c'est une règle que moi je trouve débile. Et les gens ont traduit, ah, mais Richard Ferrand veut réformer la Constitution pour permettre à Macron de se présenter une troisième fois. Oui, enfin oui, on peut le voir comme ça. Mais Richard Ferrand est botte en touche en disant bah non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai juste dit que c'est une règle de merde, mais j'ai pas dit qu'il fallait la changer. Hein. Il a aussi dit il faut changer tout ça. Oui, sur le cumul des mandats aussi. Oui, il a dit il faut changer tout ça, mais ça veut pas dire qu'il fait la proposition là maintenant de réformer le truc de manière à ce que, etc. Tu vois? Donc oui, c'est un sous-entendu. C'est un sous-entendu, bon. C'est pas un genre de ballon d'essai, non. Non, je pense vraiment pas. Non, puis c'est pas Richard Ferrand qui envoie des ballons d'essai, hein. Faut arrêter avec ça, non, non. Vu comment l'opinion publique est dégoûtée de Macron, je pense que c'est le pire moment pour faire un référendum sur ce sujet. Ah bah là, si tu fais le référendum maintenant, effectivement, faut pas s'étonner si les Français y voient un référendum pour ou contre Macron. Ah, évidemment. Qu'est-ce qu'un ballon d'essai? Un ballon d'essai, c'est le surnom que l'on donne à une proposition faite dans les médias par une personnalité politique qui sert à tester l'opinion publique. En gros, quand un gouvernement ou un camp politique réfléchit à proposer quelque chose, il y a une technique médiatique qui consiste à faire porter cette proposition par quelqu'un dans les médias, qui va dire moi je pense qu'il faudrait que. Ensuite, on regarde comment réagit l'opinion publique, la classe politique, les médias, les journalistes, les éditorialistes, etc. Et en fonction de la réaction, on voit si c'est une bonne idée et donc du coup ça vaut le coup qu'on y aille, ou si au contraire ça provoque une levée de bouclier énorme, donc c'est une mauvaise idée, auquel cas on a juste à dire oh mais non, il a parlé que pour lui, c'était pas une proposition que nous défendons, etc. C'est ça qu'on appelle un ballon d'essai dans le jargon en politique, c'est. Non, je soupire parce que. Ça fait toujours un peu penser au côté machiavélique où les politiques réagissent en faisant des coups de billard, en lançant des idées pour voir, etc., machin. En fait, la plupart du temps, c'est très improvisé. Il y a des idées qui sont lâchées dans l'opinion publique comme ça, dans le débat médiatique, et tout le monde dit c'est de la merde comme idée, et donc du coup tous les opposants disent ah c'est sûr que c'était un ballon d'essai, en fait ils veulent vraiment le faire. Sauf qu'en fait, c'était juste une idée lâchée comme ça n'a jamais été coordonné ni réfléchi. La notion de ballon d'essai, ça veut dire que ça a été réfléchi. Il y a un côté un peu complotiste, en fait, derrière. Faut imaginer des gens qui se réunissent dans une pièce et qui disent « Alors, il faudrait que toi, tu proposes de lâcher l'idée. Ensuite, on se réunit dans 2 semaines pour faire un peu le point. On voit comment ça a réagi et tout. » La plupart des camps politiques, contrairement à ce qu'on pense, ils improvisent complètement, ils essayent. Tu es assez aguerri au débat politique pour savoir qu'il fonctionne énormément comme ça. Ben non, justement, je suis suffisamment aguerri au débat politique pour savoir que c'est bien plus improvisé que ça et que on voit souvent de l'organisation et de l'anticipation derrière des mouvements qui sont en réalité très 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 très, très improvisés. Ça existe clairement, on lance une idée bien pourrie et ça gueule pas trop, on l'applique, si ça gueule, on l'applique qu'à moitié. Ou on l'applique pas. Non, mais ça existe, mais c'était notamment le cas à l'époque de Sarkozy où ses ministres lâchaient des trucs, etc. Et ensuite, le Premier ministre a arbitré en fin de journée en disant non, ce n'est qu'une initiative individuelle, ce n'est pas la ligne du gouvernement. Mais si, enfin, Macron, Ferrand, il a sûrement répondu le fond de sa pensée personnelle, hein, sans envoyer de ballon d'essai ou pas. Le journaliste lui a posé une question. Ferrand, il a dit le fond de sa pensée. Ça crée un tollé médiatique. Si ça se trouve, du côté de la Macronie, ils sont pas du tout contents de cette sortie de Richard Ferrand. Si ça se trouve, Stéphane Séjourné, Macron, quand ils ont vu ça dans le Figaro, ils ont dit, mais putain, qu'est-ce qu'il est con, Richard, pourquoi il a dit ça? Non mais ça va pas ou quoi? Fait chier, évidemment, maintenant tout le monde va penser qu'on veut changer la Constitution pour se faire élire une troisième fois. Qu'est-ce qu'il fout ce connard? Il croit pas qu'on en a déjà suffisamment sur la tronche avec ses conneries? Il faut qu'il vienne rajouter ses idées là. C'est une dinguerie de croire que les forces politiques manœuvrent pas. Ils essayent de manœuvrer. Si vous saviez à quel point c'est improvisé. Si vous saviez. Un politicien qui parle honnêtement devant un journaliste, quelle erreur. Ouais. Je me souviens quand Sarkozy était président de la République, il y a un journaliste qui lui avait posé la question de but en blanc, est-ce que vous voulez sortir des 35 heures? Et Sarkozy avait répondu, bah, je vais vous dire le fond de ma pensée, oui. Le soir même, il a fallu que le gouvernement démentisse en disant non, 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 c'est pas le projet du gouvernement, on veut pas sortir des 35 heures, on veut pas toucher à la durée légale du travail sur la semaine, on veut assouplir les règles des heures supplémentaires, les défiscaliser, etc. Enfin, bref. Levée de bouclier contre les propos du président de la République lui-même, qui avait fait une sortie de piste en disant le fond de sa pensée. Sauf que quand t'es président de la République, souvent, il faut pas dire le fond de ta pensée. Il y a des moments où une réponse langue de bois, ça vaut mieux. C'est dommage d'être élu, d'avoir des convictions et de ne pas pouvoir les porter. Si, mais être utile à ses convictions, c'est parfois ne pas les hurler lorsqu'on sait très bien que ça va provoquer des réactions et des raidissements, etc. Est-ce qu'il y a d'autres streams que ceux des séances publiques de l'Assemblée? Coucou. Jean Massy encourage les politiciens à faire preuve de taquia. C'est ce que j'ai compris. Hein? C'est pas les mêmes conséquences d'hurler ses convictions quand on est président de la République que quand on est un lambda sur Twitter. Oui, voilà. Voilà. Quand vous êtes aux responsabilités, quelles que soient vos responsabilités, mais ça s'applique particulièrement pour un président de la République, vous n'êtes pas obligé de dire publiquement que vous trouvez que le président de la République du pays d'à côté est un gros naze. Disons que pour l'équilibre des relations diplomatiques, économiques et culturelles et politiques entre vos deux pays, il est très probablement préférable de s'en tenir à des phrases un peu plus... voilà. Et ça, c'est valable dans beaucoup de directions, dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de... La taquia, c'est la dissimulation de la foi dans un but de conquête. Ah, ça! D'accord, ok. Ça a dû être compliqué pour 194 pays pendant le mandat de Trump, oui. Petite question sur la vice-présidence. Quand la présidence de l'Assemblée nationale est absente, comment s'organise la vice-présidente pour le remplacer? Il y a un ordre protocolaire pour prendre celui qui est là. Je crois que tu confonds la présidence de l'institution et la présidence de la séance publique. La présidente de l'Assemblée nationale ne préside pas toutes les séances publiques de l'Assemblée nationale. Elle a des vice-présidents qui composent le bureau de l'Assemblée nationale et qui servent à ça, justement, à la suppléer et à présider les séances publiques dans l'hémicycle. Et il y a un système de roulement. C'est aussi simple que ça. En revanche, la présidence de l'institution, elle, y a pas de remplacement. Comment tu expliques qu'il y a eu zéro référendum depuis le référendum de 2005 pour la Constitution européenne refusée par le peuple français? Bah parce qu'aucun gouvernement n'a souhaité en organiser un, ou n'a jugé opportun d'en organiser un. Comment ça se passe l'élection du président de l'Assemblée? Ça se passe à la séance inaugurale de la législature. Les candidats se présentent, il y a des tours de scrutin qui sont organisés. Si aucun candidat n'a obtenu une majorité absolue des voix lors des deux premiers tours de scrutin, un troisième scrutin est organisé à la majorité relative. Si la présidente de l'Assemblée nationale se retrouve dans l'incapacité de le faire, qui la remplace? C'est-à-dire si elle tombe malade, si elle meurt, si elle... Eh ben, on élit un nouveau président de l'Assemblée nationale. Et c'est pareil pour un maire, hein. Dans un conseil municipal, les conseillers municipaux votent pour élire le maire qui préside le conseil municipal. Bon, bah pareil. En vrai, la question des référendums, c'est une question intéressante parce que la pratique référendaire, on en parle de plus en plus et ça croise beaucoup de problématiques. Disons que la plupart des gouvernements depuis 2005 ont jugé que l'organisation d'un référendum était davantage une machine à diviser les Français qu'à les réunir. Et compte tenu des différentes fractures qu'il y a, aucun gouvernement n'a jugé opportun d'en organiser. Est-ce que le calendrier électoral qui fait dépendre les législatives de la présidentielle n'est pas devenu problématique de nos jours? L'inversé pourrait être envisageable. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion du calendrier législatif qui fait que les élections législatives suivent de près l'élection présidentielle. Bah, en fait, c'est paradoxal parce que pendant longtemps, on disait que cette inversion était préjudiciable à l'Assemblée puisqu'elle faisait dépendre l'Assemblée de l'élection du président et transformer l'Assemblée en chambre d'enregistrement du président, de la volonté du président et de la volonté du gouvernement. Le truc, c'est que 2022 nous a démontré l'inverse. C'est pour ça que je dis que c'est paradoxal. 2022 a démontré que organiser les élections législatives dans la foulée de l'élection présidentielle ne garantissait pas une majorité absolue au président de la République. « 2022 a aussi démontré que le scrutin majoritaire ne faisait pas obstacle à l'élection massive de députés du Rassemblement national à l'Assemblée. » Alors que ça faisait 30 ans qu'on disait ça, on disait « oui, Le scrutin majoritaire, c'est mieux que le scrutin proportionnel parce que ça permet de limiter l'arrivée de l'extrême droite à l'Assemblée. Le dernier exemple est en 1986. Bon, ben voilà. Bon. 2022, c'est une première réélection d'un président sans coalition. Coalition, c'est-à-dire. Sans alternance. Non, sans cohabitation. Tu confonds. J'ai compris ce que tu as voulu dire, mais tu t'es trompé de mot. Tu cherchais le mot cohabitation. On parle beaucoup de l'extrême droite, mais il y a également une grosse poussée de l'extrême gauche. Le constat est sur les extrêmes et pas que celle de la droite. Pas que celle de droite. Bah, on en revient à la subtile question de qu'est-ce qui définit l'extrême gauche. Y a-t-il une poussée de l'extrême gauche? Électoralement, non. Le NPA, lutte ouvrière, pas plus d'adhérents qu'avant. Voire même, ils s'effondrent. Ils sont en train de se diviser, etc. Considérer que la France insoumise est d'extrême gauche, on peut le considérer si on souhaite. De toute façon, encore une fois, c'est relatif, hein, et c'est subjectif. Mais ça change rien parce que, enfin, c'est de la gauche radicale. Bah, tu vois, la France insoumise, par exemple, ils ont une radicalité des postures, mais pas tant des propositions. Mélenchon n'est pas d'extrême gauche et moi qui pensais que c'était Staline. Ah, parce que Staline était d'extrême gauche? Confère ce que je disais tout à l'heure sur le trotskisme. LFI, c'est pas l'extrême gauche, rien que dans l'hémicycle. Oui, mais c'est pas, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, si on veut, le truc, c'est que l'extrême droite a une histoire, l'extrême gauche a une histoire. Et il y a des héritages en politique, il y a des continuations, il y a des continuités d'écoles de pensée, d'écoles doctrinales. La France insoumise s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle le populisme de gauche, qui a émergé dans les années 2000 et qui a cru beaucoup dans les années 2010 en Europe et dans le monde, enfin dans les pays développés. L'extrême gauche, ça a une définition historique en France, c'est le communisme révolutionnaire d'obédience trotskiste, qui refuse l'alliance avec les partis de gauche modérés, qui se fait le relais du mouvement social et des mouvements de contestation et de manifestation. L'extrême gauche en France, c'est la lutte, c'est lutte ouvrière, c'est le nouveau parti anticapitaliste, c'est comment ça s'appelle, Révolution permanente. Et encore là, je ne vous parle que des organisations qui ont la prétention de présenter des candidats aux élections. C'est ça l'extrême gauche. Ce qui caractérise l'extrémisme de la gauche dans l'extrême gauche, c'est le caractère révolutionnaire, par opposition au réformisme. Dans la notion d'extrême gauche, il y a un refus de jouer le jeu des institutions bourgeoises. Alors, avec des tensions, puisque l'extrême gauche n'hésite pas, en tout cas une partie de l'extrême gauche n'hésite pas à participer aux processus électoraux pour faire gagner ses idées ou pour essayer de faire gagner ses idées. Mais c'était tout le paradoxe de Philippe Poutou, candidat à l'élection présidentielle. Et quand tu lui demandes, quand je l'ai interviewé et que je lui ai dit qu'est-ce que vous ferez quand vous serez président de la République, il m'a répondu je veux pas être président de la République. Bon bah c'est le paradoxe du truc. Candidat à l'élection dont tu ne veux pas que tu ne veux pas remporter. Mais c'est un paradoxe qui est. C'est un paradoxe vu de l'extérieur, vu de l'intérieur, vu de l'extrême gauche, c'est parfaitement justifiable. Quid de la notion d'extrême dans extrême droite? L'extrême droite, elle aussi, a une histoire. Elle ne vient pas de nulle part. Elle n'est pas née récemment. Elle n'est pas née avec Marine Le Pen. Elle est l'héritage d'un positionnement dans le débat public en France et en Europe basé sur la contestation des droits, notamment des droits des minorités. Et c'est un programme et une école de pensée politique basée sur une lecture ethnoculturelle de la nation qui justifie donc des positionnements xénophobes, racistes, antisémites. Quel conseil pour un novice qui veut s'intéresser à la politique en Big 2023? S'abonner à ma chaîne Twitch, notamment avec Amazon Prime. C'est gratuit. Merci, Foire à l'oignon, pour ton Prime. Merci beaucoup. Merci, El Fuego, pour ton Prime. Vous avez bien raison. Moi, je dirais que les étiquettes sont et contextuelles et liées à une histoire. Moi, je rajouterais et subjective. Mais que ça reste des conventions. Donc, le problème, c'est que si on n'arrive plus à se comprendre quand on se parle, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas très intéressant d'avoir un débat. Enfin, moi, j'en ai pas grand-chose à foutre de savoir si machin est plus à droite que truc, si. Ça, on peut vraiment parler d'extrémisme, etc. C'est, pour moi, c'est des débats sémantiques, pas très intéressants. Pourquoi est-ce qu'on reçoit les flyers des candidats aux présidentielles et c'est tout, rien sur les idées, les programmes, etc. Ah, il faut les ouvrir, les flyers, parce que quand tu les ouvres en deux, à l'intérieur, il y a écrit les programmes et les idées. Est-ce que tu penses que Renaissance arrivera à présenter un candidat unique en 2027? Ça, j'en sais rien. Ça va beaucoup dépendre de Macron. Est-ce que Macron va adouber un candidat? Je croyais que c'était pour démarrer la cheminée. Ma cousine a filé les flyers du premier tour à ses gosses pour colorier dessus. Ben c'est bien. Est-ce que pour toi, les actions récentes du gouvernement tendent vers l'autoritarisme ou pas? Oui, il y a clairement un durcissement des positions du gouvernement vis-à-vis des mouvements de contestation écologistes, mouvements sociaux. Il y a un refus du dialogue avec les partenaires sociaux. Il y a une pratique du pouvoir assez forcée dans un contexte de fait minoritaire dont je parlais tout à l'heure. Comment faire quand on est de gauche mais que la plupart des gens de gauche m'insupportent? Supprimer l'application Twitter. Le Conseil constitutionnel a-t-il un partenariat avec le gouvernement? C'est-à-dire un partenariat. Je veux dire comme un partenariat de youtubeurs? Non, je sais pas. Je comprends pas ta question. J'aime bien l'idée que la droite c'est le conservatisme et l'extrême droite c'est la volonté de retour en arrière sociétale et la gauche et son extrême c'est le contraire, reste à savoir pour la raison de fonction du contexte, disons. Dans l'application c'était comme réaliste, révolutionnaire et tout. Ouais. Ouais, je réfléchis. Oui, contextuellement on peut. C'est la différence entre le conservatisme et le caractère réactionnaire. Le réactionnaire c'est un retour en arrière, un effacement des progrès. Le conservatisme c'est un maintien du statu quo en ce qu'il est préférable. Il y a un excellent podcast aussi de Thomas Legrand sur le conservatisme. Qu'est-ce qu'être conservateur? Et la gauche, en tout cas dans le contexte socio-économique du XXe siècle, la gauche, c'est la remise en cause de l'ordre établi, politico-économique, à des fins de justice sociale. Est-ce qu'il y a un podcast sur le centre Histoire qu'on pige? Non, je sais pas. Est-ce que Thomas Legrand va faire un podcast sur le centrisme? Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un podcast sur le centrisme. Non, on n'a pas fait encore. C'est quoi le nom? C'est le Enquête de politique. C'est le nom de la série de podcasts de France Inter de Thomas Legrand. Quelles seront les prochaines élections? Il y a les élections sénatoriales en septembre prochain. Et les élections européennes en 2024. Quelles sont les personnes que tu rêves d'inviter dans Backseat? Les personnalités politiques de premier plan qui font l'actualité, en fonction de l'actualité. J'ai pas un panthéon de mes invités idéaux. C'est une émission d'actu, donc ça dépend de l'actu. Genre Elisabeth Borne. Bah, le problème d'un Premier ministre ou d'un président de la République, c'est que par définition, ils font l'actu en permanence. Donc c'est toujours un candidat, c'est toujours un invité idéal pour n'importe quelle interview. Il y aura une saison 3 de Backseat, j'espère, ouais. Borne, elle dirait rien d'intéressant. Ça dépend ce que tu... Ce que tu attends. What about Mister Ruffin? On l'a déjà invité, Mister Ruffin. Est-ce qu'il est encore pertinent de continuer à parler de droite ou gauche? On peut avoir des atomes crochus avec certains points à droite et d'autres à gauche. Ah non, non, mais tu peux avoir des atomes crochus avec ce que tu veux. Est-ce que pour autant, ça remet en cause la pertinence d'une convention qui permet de distinguer les camps? Pas grave, faut pas que tu te sentes enfermé, hein. Trouves-tu que sur Backseat, les politiques sont plus à l'aise et délient un peu plus leur langue? Ça, ou ça dépend lesquels, ça dépend. Ça dépend lesquels, ça dépend de l'actu, ça dépend de... Tu vois, on a reçu deux fois Sandrine Rousseau. Elle était beaucoup plus détendue sur la première émission que sur la deuxième. Là, c'est un exemple. Je sais pas, parce que le contexte avait changé entre les deux. Ça fait longtemps qu'il existe le débat, il faudrait arrêter avec la droite et la gauche. Oui, ça fait depuis aussi longtemps que la droite et la gauche existent. Ça fait partie du jeu. La contestation ou la remise en cause de la pertinence de la lecture gauche-droite existe depuis que la gauche et la droite existent. Et c'est pas grave. C'est très bien. Est-ce que les oppositions ont-ils déjà réussi à convaincre la majorité? Bah oui. Sur la contestation de la réforme des retraites, par exemple, récemment. Puis bon, après, il y a déjà des opposants qui ont remporté des élections, hein. C'est curieux, je crois que j'ai jamais entendu parler des prochaines présidentielles aussitôt dans un mandat. Est-ce que c'est symptôme d'un blocage politique actuel? Oui, après c'est très contextuel, hein. C'est aussi le fait que c'est le dernier quinquennat de Macron. Donc, ah, tu vois, c'est aussi lié à ça. C'est aussi... C'est aussi lié au fait que le mercato est d'autant plus intéressant qu'on sait que Macron ne peut pas se représenter. Qu'on se... Voilà. Est-ce que Macron peut se représenter en 2032, genre après le mandat d'un autre? Oui. C'est quoi exactement les questions régaliennes? Les questions régaliennes, c'est les questions qui touchent aux structures les plus importantes de l'État et de son autorité. Donc, police, justice, armée, budget, politique monétaire. C'est ça qu'on appelle le régalien. Et par déformation, quand on utilise le mot aujourd'hui, on parle très souvent des questions liées à la politique en matière de sécurité, en matière de justice, en matière d'immigration. Voilà. Macron, Premier ministre, dans un gouvernement entre deux, c'est possible? Oui. Oui, je vous rappelle qu'un Premier ministre n'est pas élu, il est nommé. Comment le sujet écologique peut être débattu comme un sujet politique? Ça me semble pas pourtant être un sujet d'opinion pour le coup, ou c'est de la désinformation. Ça dépend ce que tu appelles écologie dans ton esprit. C'est fondamentalement un objet politique puisque c'est un objet de choix et de décision. Décision qui peut faire l'objet d'une discussion sur leur caractère souhaitable. Non souhaitable, juste, injuste, réaliste, irréaliste. C'est de la gestion de la société, c'est politique. Oui, voilà, c'est ça, c'est politique. Pourquoi est-ce qu'on qualifie la Ve République de régime semi-présidentiel? C'est une expression qui est utilisée pour désigner le caractère spécifique de la Ve République, qui est un régime parlementaire, mais un parlementarisme rationalisé. C'est semi-présidentiel parce que le président partage le pouvoir exécutif avec un Premier ministre qui relève de la légitimité du Parlement. Donc c'est pas tout à fait un régime présidentiel à l'américaine où le président a l'administration pour lui. Même si le Parlement aux États-Unis peut empêcher le président d'agir, hein, je rappelle. Mais c'est pas non plus un régime complètement parlementaire, puisque le parlementarisme a été rationalisé, donc il y a des limites, il y a le 49-3, pareil, c'est un exemple. Tu vois? Ça me trigger, l'écologie, c'est une science, pas une idéologie flinguée pour faire pousser les jolies petites fleurs. Formez-vous pour en parler. Moi, je suis pas garagiste, je commande pas trop l'état des bagnoles. Bah, t'as pas l'air d'être politiste et ça t'empêche pas de faire des commentaires politiques, visiblement. Donc, tu vois, comme quoi. Mais blague à part, la question des faits scientifiques et de la connaissance en matière d'écologie n'est pas un objet de débat politique. La question politique en matière d'écologie, c'est sur les décisions qu'il faut prendre et sur les manières de les prendre. La science décrit, mais la science ne prescrit pas. La science, elle dit. Quels sont les mécanismes de changement du climat? Quelles en sont les causes et quelles en sont les conséquences? C'est au tour du politique que de juger qu'il est nécessaire ou pas d'agir contre ces changements et leurs effets néfastes. et quelles sont les actions à mener. Ça, c'est pareil, c'est pas à la science de le dire. Elle peut éclairer la science, mais elle peut pas prendre la décision à la place du politique. Merci Senzos pour ton prime. Tuer la moitié des humains, c'est écologique, mais pas forcément très juste, par exemple. Taxer. Appliquer le principe de pollueur-payeur à la consommation de carburant pour les automobiles peut s'avérer tout à fait justifié d'un point de vue scientifique, mais peut être considéré tout à fait injuste par des gens avec des gilets de couleur jaune fluo. Par exemple. C'est une plaie dans le domaine où garder l'aspect scientifique et politique séparé est une constante bataille. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est à mon avis, il faut pas faire l'erreur d'attendre des scientifiques qu'ils fassent de la politique, ce n'est pas leur rôle. On en demande trop aux scientifiques. C'est pas aux scientifiques de dire sur les plateaux télé ce qui relève du souhaitable ou du non souhaitable. Ça, c'est du rôle du politique. Moi, j'en ai marre que les politiques, qu'on invite des journalistes, pardon, qu'on invite des climatologues pour leur demander, ah, selon vous, il faudrait, je sais pas, insérer ici une proposition d'ordre politique. Ah, selon vous, il faut interdire les SUV. Non, mais selon moi, rien du tout. Moi, je suis scientifique, je suis là pour vous dire que E égale MV. Plus les voitures sont grosses, plus elles consomment d'énergie. En l'occurrence, l'écrasante majorité de l'énergie aujourd'hui, c'est l'énergie issue du pétrole. Voilà, si on veut faire de la sobriété, c'est nécessaire. Enfin, voilà, ce qui relève du souhaitable, c'est aux politiques de le décider. E égale 1,5 de MV2. Oui. Mais la masse dépend de la vitesse. Enfin, l'énergie dépend de la masse comme de la vitesse. Non, justement, pas comme de la vitesse. Non, mais oui, enfin, on s'est compris. Trop chelou comme point de vue, c'est comme si ton médecin te disait, vous pourriez aider à lutter contre votre cancer du poumon si vous arrêtiez de fumer. Là, je suis pas du tout le point de vue de Jean. Je comprends pas la comparaison. Heureusement que les médecins disent que réduire sa consommation de tabac, ça réduit le risque d'avoir un cancer du poumon. Justement, bonne analogie, ton médecin ne va pas te contraindre à arrêter de fumer. Ah oui, bah non. Bah non, il le peut pas. Ton médecin, il t'informe. Non, c'est une bonne analogie en fait. Non, mais t'as raison. Un médecin, il t'explique que t'as une maladie. Il t'explique quelles en sont les causes, il t'explique quelles en sont les conséquences, même si les conséquences tu les vois bien, puisque c'est bien la raison pour laquelle tu es allé consulter, et il te présente le médicament. Après le médicament, tu es seul face à toi-même. Si tu trouves que le médicament a un mauvais goût, et que ce mauvais goût est trop mauvais par rapport au mal que te fait la maladie, c'est toi qui fais un choix d'ordre politique. Mais c'est toi qui le fais le choix. Le médecin, il va pas le faire pour toi. Hein. Si en revanche, tu fais la balance bénéficiaire, tu dis OK, le médicament est dégueu, mais la maladie, c'est quand même vachement plus moins bien que de mourir, que le mauvais goût du médicament eh ben tu vas accepter d'avaler une pilule, malgré son mauvais goût, parce que tu pourras en bénéficier des effets positifs sur la maladie. Mais du coup, on doit prendre son médicament ou non? Si d'aventure tu veux guérir de ta maladie, ce qui est déjà de l'ordre de la décision, parce qu'on pourrait aussi avoir un débat, hein. Comme dirait Jean-Marc Jancovici, si on veut limiter à 2 degrés, virgule, alors d'ananas. Donc bref, tout ça pour dire que je suis un grand défenseur de la position, de la place du scientifique dans le débat public, mais je suis aussi un grand défenseur du rôle et de la place du politique, et que c'est très dépolitisant. Et à mon avis, c'est faire un bien mauvais, c'est rendre un bien mauvais service aux scientifiques que de leur confier des responsabilités qui sont pas les leurs. Foutons la paix aux scientifiques, laissons-leur faire leur travail, et repolitisons le politique qui a pour rôle de faire des choix, y compris en faisant des calculs coût-bénéfice. En résumé, la science est capable de dire ce qu'il faudrait faire, mais le politique a la décision finale. Ouais, exactement. Ouais, exactement. En vrai, dans le monde idéal, la science y fait un constat et les politiques s'écharpent pour savoir comment on règle le problème. Bah, regarde, c'est un peu ce qui est en train de se passer. D'un certain point de vue. Le consensus scientifique, maintenant, est quand même assez bien établi via les rapports du GIEC sur les mécanismes du réchauffement climatique. Et notre débat public s'écharpe pour savoir ce qu'il convient de faire ou pas. Et le fait que vous soyez visiblement dans le chat un certain nombre à être déçus de l'action du gouvernement en matière écologique n'est pas de la responsabilité du scientifique, mais visiblement de la responsabilité du politique, qui ne semble pas apporter les réponses que vous estimez nécessaires et souhaitables pour résoudre le problème. Le scientifique, lui, de son côté, il dit la même chose, hein, que Macron soit président ou pas. Hein, il dit... Les accords de Paris, c'est considéré comme scientifique? Non, les accords de Paris, comme son nom l'indique, ce sont des accords politiques. C'est pas une conférence scientifique, les accords de Paris. C'est un sommet politique entre des autorités politiques que sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont signé un engagement. Un peu comme un patient qui dirait à un médecin, promis, j'arrête de fumer. Ou pour être exact, promis, je réduis ma consommation de tabac. Bon. Après, on peut avoir des discussions politiques pour savoir si il a effectivement réduit sa consommation de tabac et si le rythme de réduction de tabac est conforme à la trajectoire à laquelle il s'était engagé face à son médecin. Mais c'est pas de la faute du médecin. Donc voilà. Donc ouais, non. Vive le politique, vive le scientifique. Chacun à sa place et les moutons seront bien gardés. Après, il faudrait peut-être aussi arrêter de sacraliser la science.
Ouais.
Non, mais au demeurant, je veux pas répondre par de l'ironie parce que c'est pas la première fois que je vois des commentaires aussi de personnes qui trouvent que les scientifiques ne sont pas assez écoutés par le politique. Ce qui est un avis parfaitement valable, hein, j'ai pas de souci avec ça. Mais qui en viennent à la conclusion qu'il faudrait confier le pouvoir à des experts en disant remplaçons les politiques qui sont incompétents et incapables par des scientifiques slash experts qui, eux, savent ce qu'il faut faire. Comme si la problématique en politique relevait d'abord de la compréhension des phénomènes et de la connaissance des solutions à apporter, plutôt que de la méthode de mise en place. Donc ça existe, hein. Ça s'appelle une technocratie. Technocratie, c'est un modèle politique dans lequel le pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent la technique. Je vous le dis tout de suite, une technocratie n'est pas une démocratie. Une technocratie se moque totalement des opinions publiques et ne s'intéresse que très peu, sauf à ce que ce soit des paramètres que l'on fasse rentrer dans la machine volontairement, au caractère de justice, au caractère d'acceptabilité sociale, au caractère de morale. Donc, ce que vous gagnez avec la technocratie, vous le perdez dans les caractères démocratiques de la démocratie. Exemple, très très bon exemple, qui s'appelle la taxe carbone. Taxe carbone, c'est un excellent exemple d'une solution à un problème validé par les experts comme étant très efficace et qui a fait l'objet d'une contestation démocratique, populaire, qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes, face à son caractère injuste. Meilleur exemple quand on parle de démocratie, de technocratie. Ouais, bah oui. L'écotaxe aussi à l'époque, c'était pareil. Donc, ce ne sont pas les ingénieurs qui auront les solutions aux problèmes. Déjà, enfin. Déjà, on pourrait avoir une discussion pour savoir est-ce que la politique, ça résume à trouver des solutions à des problèmes. Mais quand même, à qui appartient la solution? Est-ce que c'est uniquement de l'ordre du technique ou est-ce que c'est de l'ordre du politique, démocratique, philosophique, moral, économique? Pour reprendre la caricature que faisait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, c'est très vrai. Tuer un habitant sur deux de la planète pourrait être efficace d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça relève du souhaitable? Vrai écolo se suicide. En vrai, le politique apporte la partie acceptation sociale. Oui, acceptation. Mais pas, oui, acceptation ou justice ou désirabilité, la question du rythme aussi, la question des priorités, la question des contreparties aussi. La question des contreparties aussi, des compensations. En plus, il faut être sûr que les scientifiques sont justes. Il y a un moment, l'eugénisme, c'était dans toutes les facs d'Europe. Oui, alors ça, au demeurant, oui, il y a aussi des mouvements dans l'histoire, des sciences, oui, bien sûr. Oui, au demeurant, t'as raison, hein. Il y a eu une époque où on trouvait parfaitement moral de tuer les enfants handicapés, parce qu'ils sont handicapés. Bon, bah écoute. Voilà. Contre plus d'échanges entre politique et scientifique. Ah non, au contraire. Ah, moi, je suis pour plus d'échanges entre politique et scientifique. Plus d'échanges tant que chacun reste dans son rôle. Exactement. Que le politique ne se cache pas derrière le scientifique pour justifier son inaction. Et qu'on arrête d'attendre du scientifique qu'il prenne des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Et vous l'aurez sans doute compris, je ne suis pas tout à fait favorable à la technocratie, à titre personnel, mais on peut en discuter. Perso, je trouve que ton exemple sur la technocratie était pas super. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Merci GameFab pour ton resub, merci. De toute façon, les littéraires n'aiment pas les ingés et les ingés n'aiment pas les littéraires. Voilà. À quand du Flight Sim? Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que demain, je vais au Salon du Bourget avant Backseat. Et que Backseat aura lieu demain soir. On reçoit Stanislas Guérini, notre invité politique. Et le Before de Backseat demain, ce sera la rediffusion du Before d'il y a 2 semaines qui n'avait pas pu être diffusé sur Twitch parce que rappelez-vous, il y avait des problèmes techniques ce jour-là. C'était le bordel. Donc du coup, on va rediffuser le Bifor. En plus, c'est un Bifor vachement bien sur l'accueil des réfugiés. Il fait chaud ici, oh là là. À propos de Flysyn, je te conseille le doc sur Airbus d'Arte posté hier. Ah ouais? Faudrait que je le regarde. Tu sais qui sera là en chroniqueur et chroniqueuse? Il y aura Usul, Sacha et Léa qui vont chroniquer demain sur le plateau de Backseat. Ah oui, il y a le Nintendo Direct. Ah. C'est pour ça qu'il y a son père. Ah. Moi, je vais m'arrêter là, les amis. Il est déjà 17h. Je suis fatigué. Merci d'avoir été là, c'était cool. Stanislas Guérini, il en pense quoi du Nintendo Direct? Alors, je suis pas sûr qu'on aura le temps de lui poser la question demain, c'est dommage. Rendez-vous demain pour Backseat. Je vous fais des bisous. Venez dans le public, il reste des places. Point d'exclamation place dans le chat. C'est à Paris, dans le 20e. Il y a un apéro qui est offert, profitez-en. C'est 18h à... C'est de 19h, pardon. C'est de 19h à 22h. Et après, l'apéro, il est offert. Demain, c'est à 18h30 que commence Backseat, exceptionnellement, oui, parce qu'il y a le before d'une heure qu'on rediffuse. Merci à toutes et à tous. À demain. Vas-y, je prends, je suis dans le 17. Et ben voilà, let's go, viens, viens demain. On est dans le quartier Gambetta. Des bisous, bonne soirée à tous. Ciao, bye bye, salut.
Alors vite fait, on se met puisque vous êtes là.